Bonjour, excusez-moi, vous auriez pas vu Nelly ?
Non, non, pas aujourd'hui. Vous êtes ?
Je suis Ludovic Terol de 48FM et...
Ah, Ludo !
Oui, nous avions rendez-vous avec Nelly dans le cadre de la visite radiophonique. Allez, on arrête là, c'était un clin d'œil à la Murder Party qu'on a proposé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine qui s'est tenue au Château du Boy. Caroline Entregue et Nelly Lafont ne sont pas là aujourd'hui. Bonjour Elsa Loupandine, guide conférencière au sein du Pays d'Art et d'Histoire Mandelot-Angers-Vaudan.
Bonjour Ludovic Terol.
Bonjour Alexandre Monceau, guide conférencier au sein de l'Office de Tourisme Intercommunal Cœur de Lozère.
Oui, bonjour Ludovic.
Alors, on vous a refilé la patate chaude, qu'est-ce qui se passait ? Elles sont passées où, Nelly et Caro ?
Bah, elles se sont esquivées, il fait froid, ça y est, c'est pour nous, les sorties terrain.
Ça y est, il fait froid, on est sur Mende, et on va visiter quoi aujourd'hui ?
Ah, nous allons visiter le quartier de la gare, qui a fait l'objet d'une visite 50s cet été avec Alexandre.
Allez, c'est parti.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entregue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelot-Angers-Vaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.
On est situé devant la gare. Pourquoi la gare, Elsa ?
Alors en fait, on part de la gare pour expliquer le développement de ce quartier. Développement de ce quartier qui s'est justifié à la fois par l'installation de la gare, le développement des axes routiers et un développement urbain en dehors du centre historique.
Oui, et puis l'idée c'est aussi de travailler sur l'essor du tourisme dans la première moitié du XXe siècle, puisqu'il faut savoir que la Lozère et Mende étaient le premier circuit touristique du début du siècle avec le grand tour par les gorges du Tarn. Donc on a ici une cohérence au cours de cette visite guidée qu'on fait l'été, visite un peu théâtralisée d'ailleurs.
Quelle particularité pour cette gare, s'il y en a ?
Aucune. Cette gare est tout à fait inintéressante d'un point de vue architectural. Vraiment, ce qui se justifie, c'est le développement du quartier, quoi.
D'accord. Alors ce quartier, expliquez-nous, il s'est développé première moitié du XXe siècle, c'est ça ?
Oui, en fait, on commence à avoir de l'urbanisation à partir de la création de la gare en 1881. On va installer une fontaine au niveau du pont de Berlière, ce qui va permettre de créer des maisons. Il n'y a pas d'eau sur le côté de Charles de Coste. Donc, il faut amener l'eau potable pour pouvoir créer des maisons. Et donc, cette première fontaine est due à l'arrivée de la gare. Et c'est la gare, et puis bien sûr, les logements des ouvriers de la gare, des cheminots, qui vont lancer le début de l'urbanisation de Charles de Coste.
Donc, historiquement, on a amené des touristes ici qui, après, étaient dispatchés sur les gorges du Tarn et sur les autres endroits de Lozère, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Et c'est aussi ce qui va justifier l'implantation d'hôtels et d'hôtels qui vont mettre en place un service de voituriers. Notamment l'Hôtel de France qui avait son propre service de voituriers qui amenait les touristes de l'hôtel jusque dans les gorges.
Où on prenait une barque et les bateliers vous faisaient descendre jusqu'à Millau et vous repreniez le train à Millau pour remonter vers Paris. Alors la gare, elle a pas d'intérêt. Par contre, la ligne de chemin de fer en elle-même en a un, puisque c'est le translozérien, traverse la Lozère d'est en ouest, du monastier jusqu'à la Bastide puis l'Oran. Et cette partie est, qui est finie en 1905, c'est la partie non électrifiée la plus haute de France. 1205 mètres les cols. Donc une infrastructure compliquée puisqu'il a fallu créer des galeries pour protéger les voies contre la neige. Donc on pourrait penser qu'on passe dans des tunnels, mais non. Et puis il y a de très beaux viaducs sur cette partie-là, vraiment importante.
Après, on est vraiment ici au carrefour de deux types d'axes de communication. Le translozérien et la route, parce qu'en fait les chemins de fer ne desserrent le département que sur ses marges, et donc on a vraiment ici un axe routier qui est très intéressant et qui va être très déterminant dans le développement du tourisme, puisqu'on va avoir un tourisme individuel plutôt qui va se développer avec le train, mais également avec la diffusion de la voiture et sa popularisation, quoi.
Ce circuit touristique était emprunté à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui venaient.
Il y avait des gens de plus en plus nombreux, oui, qui arrivaient par les voies routières.
Alors, il faut bien se rappeler qu'on est loin du tourisme de masse. Hein. Les congés payés arrivent en 36. Donc, c'est ceux qui peuvent prendre des congés et se déplacer sur d'aussi longues distances, c'est vraiment une élite. Donc, on est sur des grands bourgeois, souvent parisiens, qui viennent voilà, vraiment faire une excursion de quelques jours et qui repartent. Hein. L'idée, c'est de prendre l'air de la campagne et de découvrir. Dans ce rôle de développement, il faut bien sûr mettre comme figure majeure Alfred-Édouard Martel. Hein, qui a fait beaucoup pour la popularité de ce circuit et de la découverte notamment des gorges.
Qui est cette personne ?
Alors Alfred Martel, alors c'est un ce qu'on appelait à l'époque le premier grottologue, donc aujourd'hui on dirait spéléologue, hein, donc c'est celui qui a découvert eh bien toute une série de grottes. Le plus célèbre c'est sans doute le gouffre de Padirac, mais en Lozère il y a l'Avène Armand et la grotte de Dargilan. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé aussi sur les gorges du Tarn. Et sur la découverte du chaos de Montpellier-le-Vieux, qui est en partie aussi avec l'Aveyron.
Donc là, voilà, le départ à la gare se justifie pour expliquer justement le développement touristique de la Lozère et le développement des infrastructures. Mais ce quartier se caractérise aussi par un fort développement urbain. Et donc là, on va vous emmener découvrir cet aspect-là de l'histoire du quartier.
Allez, c'est parti. Alors, on vient de passer le pont de Berlière et on se trouve où maintenant ?
Alors, on se trouve juste en face de l'hôtel que les Mandois ben, ont l'habitude d'appeler l'hôtel Monopoly, qui est la Maison Père. Et cette Maison Père qui est vraiment l'emblème du développement du quartier. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'ici, au départ, on n'avait que des champs. Donc, quand la Maison Père est construite, elle est construite au milieu de champs. Hein, on était vraiment aux abords de ces parcelles qui étaient exploitées, qui au départ avaient appartenu à l'évêque de Mende, hein, le Prévival notamment, on en reparlera. Il est construit à une époque où en fait le centre historique de Mende est vraiment vétuste, où les logements sont insalubres, et donc on a besoin de nouveaux équipements pour loger la population, qui soient sains, qui soient plus adaptés aux nouveaux modes de vie, aux nouveaux espaces dans lesquels on a l'habitude d'investir. Les logements. Et donc, on a cette construction qui voit le jour. Construction ben, dont l'histoire va être un petit peu rocambolesque et chamboulée avec la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, alors c'est un bâtiment dont la construction est commencée en 1939. Et forcément, quand on connaît la suite, on se doute bien que le chantier va avoir quelques difficultés. Alors, il est visiblement fini en 42 ou 43. Et les premiers occupants sont en fait les forces d'occupation allemandes, qui ont décidé d'en faire le foyer des soldats. Donc le grand casernement des soldats allemands, il se trouve au lycée Chaptal actuellement. Et donc, on est juste à côté. Donc, c'est le foyer pour se délasser et ils vont l'équiper très richement. On sait que juste 2-3 jours avant leur départ, en juillet 44, ils ont encore commandé des tapisseries, des draperies, des rideaux. Et il y a 300 000 francs d'ardoises qui sont laissés par l'occupation allemande, ce qui est une somme énorme hein, à l'époque. Donc vraiment un bâtiment qui, par contre, pour le coup, est le premier à avoir l'électricité à tous les étages, l'eau courante, des fenêtres grandes, beaucoup de lumière, vraiment une idée d'aération, d'espace. On est dans cette conception hygiéniste de l'urbanisme et de l'habitat qui prend vraiment essor à partir du 19e avec le baron Haussmann à Paris, mais d'autres travaux. Donc il faut amener de la lumière, il faut amener de l'air. Et la localisation ici, juste au bord du Lot, qu'on vient de canaliser tant bien que mal au pied de cette allée Piancourt, est forcément privilégiée.
Juillet 44, ils étaient confiants sur la suite de la guerre pour commander autant de choses à 300 000 francs.
Ben, je pense qu'ils espéraient partir avec, et c'est ce qu'ils ont fait. Hein, parce que, effectivement, 3 jours après, le commandement allemand fait évacuer le positionnement de Mende 2 jours avant l'arrivée des troupes américaines. Donc, remontée du sud lors du débarquement de Provence.
Mais on est vraiment dans un quartier qui a été plébiscité par les forces d'occupation allemandes, justement à cause de sa modernité et des espaces qui permettaient d'accueillir les troupes et les soldats allemands. Donc, on va en reparler en cours de visite. Mais on a un premier édifice ici qui a été occupé à l'occasion donc de cette période de l'histoire. L'hôtel, le Grand Hôtel de Mende et des Gorges du Tarn également. Et puis dans le Prévival également, on a une autre maison qui avait été occupée. Donc on est vraiment dans ce quartier qui incarne la modernité dans la première moitié du XXe siècle, la modernité urbaine, la modernité de logement, etc. Et c'est une des raisons qui l'ont fait un peu lieu de prédilection au moment où il a fallu cantonner des troupes en nombre et dans certaines conditions de confort.
Oui, parce que finalement, de l'extérieur, il ne fait pas si vieux que ça, architecturalement.
Non, il est vraiment purement dans le style art déco, donc des grandes verticales qui sont juste contrebalancées par la grande corniche, les balcons, un jeu de bichromie qui lui donne un côté assez moderne. Hein. Donc vraiment un bâtiment finalement qui aujourd'hui a pleinement sa place et qui incarne. Alors on parlait de premier building mandois, c'est vraiment ça, hein. C'était la nouveauté, c'était le bâtiment d'excellence de la fin des années 30, début des années 40.
Alors Elsa, on a changé d'endroit, on est arrivé où ?
On est arrivé à l'ancien hôtel de Mende et des Gorges du Tarn, le Grand Hôtel de Mende et des Gorges du Tarn, donc qui se situe juste devant nous et qui à l'origine est entouré de tennis. Voilà, on a un peu du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais il y avait un équipement tout à fait adapté à la population qui était accueillie par l'hôtel. Donc on avait un hôtel qui vraiment incarnait là encore la grande modernité du quartier, avec une architecture tout à fait novatrice, voilà, avec une esthétique, là encore, art déco, vraiment un portail assez impressionnant, des gradins, enfin des marches d'escalier qui montent en gradins pour donner vraiment quelque chose de très imposant au niveau de l'accueil et de l'entrée. Et puis, on a un établissement qui était assez atypique dans son fonctionnement, puisqu'il a concilié habitat individuel et activité hôtelière. Voilà, ce qui est assez mal connu quand on parle de cet établissement.
Voilà, pour expliquer, donc, il est situé entre Orange et la rue des Clapiers. Voilà, c'est ce grand bâtiment que l'on voit très peu depuis la route, mais qu'on voit plus de la rue des Clapiers, il me semble.
Alors oui, l'hôtel, il a connu deux vies, en fait. Il a commencé comme hôtel, bien évidemment. En fait, le problème, c'est que visiblement, les promoteurs qui se sont lancés dans la création de cet hôtel avaient sous-estimé ou mésestimé les nécessités d'un hôtel. Donc cet hôtel avait été richement décoré pour les parties communes du premier étage. La cave était dotée de meilleures crues de l'époque. La vaisselle était en argent, en porcelaine. Mais les chambres, quand on a le descriptif, parce qu'en fait l'hôtel fait faillite 3 ans après son ouverture. Et on a donc l'inventaire avant faillite. Et on se rend compte que les chambres sont très sommaires. Le 4e étage n'est même pas équipé. Donc en fait, ils ont un peu mis la charrue avant les bœufs. Ils ont commencé d'abord par le bas avant de commencer par le haut.
Et la cage d'escalier est installée, mais pas l'ascenseur.
Il n'y a même pas l'ascenseur installé, voilà, par exemple. Donc c'est un semi-fiasco. On maîtrise assez mal la transformation. Et puis le bâtiment est lui aussi occupé lors de la Seconde Guerre mondiale. Le dernier étage est affecté à la Fels Gendarmerie et on a les papiers de la mise en sécurité aérienne, donc des parties hautes du toit pour protéger le bâtiment et la ville demande d'attaque aérienne, ce qui n'aura pas lieu.
Qu'est-ce qui devient au fil du temps, du coup ?
Oh, il a une histoire un petit peu rocambolesque, hein. Donc on a des parties communes qui sont divisées et qui sont vendues, on a des propriétaires particuliers qui acquièrent des logements, on a une activité de maison close vraisemblablement qui s'installe donc dans cet hôtel. Donc voilà, une histoire un petit peu mouvementée.
Aujourd'hui, sous forme de copropriété avec des locations.
C'est ça, oui, c'est des propriétaires particuliers et puis quelques locataires qui se partagent donc l'espace qui a été totalement redéfini en intérieur. Hein. Donc l'extérieur a bien son aspect d'origine, on a un très beau bâtiment, mais les intérieurs ont complètement été remodifiés pour s'adapter tout bêtement aux conditions de vie actuelles.
Ce qui est intéressant aussi sur cet édifice, c'était l'adduction en eau potable. Hein, on a vu tout à l'heure la maison père qui disposait déjà d'un système d'électrification et d'eau courante assez perfectionné. Ici, le bâtiment prélevait en fait de l'eau depuis la nappe phréatique via un puits qui est dans le jardin qui est toujours en place, qui était hissée jusqu'à une cuve sous le toit. Et ensuite, par gravité, l'eau était ramenée dans les canalisations et desservait l'intégralité des logements.
Et la cuve et la pompe, ils sont toujours. Donc ça ne fonctionne plus, mais ça pourrait être relancé.
Génial.
Entends-tu cette musique?
Donc on est en train de poursuivre notre route, on remonte la Lépiancourt, on s'arrête où, Alexandre ?
Alors on s'arrête en fait en face d'une maison qu'on appelle la maison Lyonnais, du nom de son premier propriétaire, qui était architecte départemental, architecte des bâtiments de France, et qui est aussi une grande figure de la Résistance. Hein, c'est un grand personnage qui a été chef de la Résistance, qui a valu à la maison d'être saisi et transformé en Gestapo, un lieu de la Gestapo, et c'est là qu'a été torturé les résistants du maquis de Bir Hakeim qui ont après été fusillés à Badarou.
Qui a été torturé dans les caves, et du coup il y a une sculpture qui a été mise en place devant la maison, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça, tout à fait, ouais. Et puis donc on est sur l'allée Piancourt, donc forcément dans la visite 50s, on ne peut pas ne pas évoquer l'abattage des peupliers noirs d'Italie qui avait été planté par Monseigneur de Piancourt à la fin du XVIIe siècle et qui en fait présentait des dangers.
Alors ça a fortement marqué la population, l'abattage de ces peupliers. Il y a des images qui ont été prises à l'époque, ça a fait les couvertures presse. Enfin, ça a vraiment marqué très fortement la population. C'est-à-dire, il faut imaginer qu'on avait là des peupliers qui avaient plusieurs centaines d'années, qui marquaient vraiment le paysage urbain, qui marquaient cet axe de communication. Hein. On était là encore sur cet axe de communication dont on parlait tout à l'heure. Et ces peupliers, alors, ont été abattus pour des raisons de sécurité. quartier, hein, dirons-nous, voilà, parce qu'il menaçait de s'effondrer. On a d'ailleurs à ce sujet un courrier tout à fait croquignolé, justement, de Monsieur Lyonnais au maire de l'époque. Et je vais laisser Alexandre vous narrer ce courrier, parce qu'il l'a parfaitement en mémoire, en bon Monsieur Bontois qu'il est.
Alors, effectivement, donc le courrier, il dit « Mon cher maire et ami », donc c'est adressé au maire, « Je t'écris pour te dire que si tu avais porté attention au rapport des eaux et forêts d'il y a 2 ans, je ne serais pas obligé de te dire de préparer le laïus que tu devras dire lors de mes funérailles. Lorsqu'une des énormes branches qui tombe dans mon jardin aura réussi à m'écrabouiller, ce que je ne souhaite pas, et toi non plus, amitié, Jean Lyonnais. » Donc c'est assez assez rigolo, mais ça témoigne bien, voilà. Donc c'est bon. Alors on sait qu'il y en a plusieurs qui ont été abattus déjà dans les 2-3 années qui précèdent, hein. Donc là on est en 56 pour l'abattage quasi généralisé, puisqu'il y en a qui avaient été couchés, notamment par l'aménagement du Prévival, puisque le fait d'aménager le quartier ici va fragiliser les talus sur lesquels ils étaient posés, donc on va avoir un déracinement de certains qui s'effondrent.
Sachant que le Prévival, comme son nom l'indique, au départ n'était là encore que des champs, les champs qui appartenaient à l'évêque Piancourt et qui ont été lotis donc dans cette première moitié du 19e siècle. Donc voilà, on va découvrir un petit peu plus ce quartier et les aménagements qui ont été réalisés, notamment par l'architecte
Joseph Ignon.
Allez, on poursuit, on va marcher jusqu'au prochain endroit. L'arrachage des arbres, c'est une histoire sans fin, hein, Amande. Hein. Les Mondois n'aiment pas qu'on arrache leurs arbres, hein. Ça, l'histoire se répète. Hein.
Oh, c'est partout, je crois que dans toutes les villes, on n'accepte pas l'abattage des arbres, même si, malheureusement, même c'est le cas aussi pour la gestion forestière, il faut renouveler les arbres et donc abattre pour replanter de nouveau.
Voilà, surtout quand c'est dangereux. Allez, donc là on descend cette petite rue qui est en face de la maison Lyonnais, qui va nous amener où donc ?
Qui va nous amener à la maison de Joseph Ignon, la première qui a été construite dans le Prévival et au moment où celui-ci est loti. Voilà, on a différents lots qui ont été instaurés dans l'ancien champ de Monseigneur Piancourt et chacun de ces lots va être construit. Et un des premiers exemples de construction qu'on a dans le quartier, c'est la maison de Joseph Ignon.
D'accord, c'est le premier lotissement qui a vu le jour, Amande ? Un des premiers hors centre-ville, on peut dire ça ?
On peut dire ça, il faudrait vérifier exactement avec le quartier des Carses, voir lequel des deux est exactement le plus récent, peut-être les Carses un petit peu avant, mais on est voilà dans la fin des années 30 pour les plans, et puis ça se lance vraiment après la guerre, et l'explosion c'est dans les années 50.
Sachant que on a des témoignages de l'architecture de Joseph Ignon dans les deux quartiers, à la fois dans le Prévival et dans le quartier des Carses. Donc on a là vraiment deux ensembles historiques qui sont particulièrement intéressants au niveau de cette architecture qui a été véhiculée par Joseph Ignon.
Ça y est, on est arrivé. Alors, un quartier fort sympathique.
Tout à fait, et qui illustre là encore un autre exemple de développement urbain, puisqu'on a vu jusqu'à présent des immeubles, des hôtels, où on avait une construction en élévation, un habitat collectif. Et ici, on se retrouve dans un habitat qui est individuel, pavillonnaire. Donc, on a vraiment sur un périmètre assez réduit deux types de construction et donc de développement urbain. Et on a ici le premier exemple dont on parlait tout à l'heure, qui est cette maison construite par l'architecte Joseph Ignon et qui, là encore, a eu une histoire très marquée par la Seconde Guerre mondiale.
Cette maison, c'est celle qu'on appelle la Villa Massador, du nom de son premier propriétaire. Et avant de partir chez Jean Lyonnais, la Gestapo, elle était ici. Donc, parce que, c'est voilà. Donc, encore une fois, les Allemands ne s'étaient pas trompés. Ils ont réquisitionné uniquement les bâtiments modernes, confortables. Donc, celui-là qui venait juste de sortir de terre, qui était tout seul. Faut bien imaginer que c'est le seul pavillon qui a été construit, peut-être celui d'à côté, on a un doute, qui a été construit avant-guerre. Et après, tous les autres sont construits après 45 et dans les années 50. Donc, on était au milieu de rien. Ce qui est intéressant avec ce quartier, c'est qu'on voit se créer donc ces espaces pavillonnaire, avec cette notion de petit jardin, même de grand jardin, pour certaines parcelles comme celle-ci, autour de la propriété, avec cette idée d'y pouvoir y installer, par exemple, un potager. Voilà. Donc ça, c'était pareil, important, puisque on a en fait une population qui est essentiellement rurale et qui arrive en ville et qui souhaite retrouver aussi une partie de sa vie qu'elle avait en la campagne et donc pouvoir bénéficier d'un potager, par exemple.
Et on se rend bien compte ici qu'on est vraiment extramuros par rapport au centre historique, donc un quartier qui se développe en contrebas du centre-ville de Mende, avec ses constructions tout à fait atypiques et qui reflètent bien l'état d'esprit hygiéniste et de confort qui se développe à cette période.
Et on a des garages pour toutes les maisons. Et donc on est bien aussi dans cette période de démocratisation de l'automobile. Chaque logement a un emplacement pour sa voiture.
C'est un quartier fort agréable, juste à côté du centre-ville, assez calme. Par contre, il y a un problème qui est situé en zone inondable.
Et oui, tout à fait. On a le Lot donc à proximité. Et il y a la nappe phréatique juste en dessous. Alors l'idée ici, c'est que on va lotir ce quartier-là. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est à proximité du centre-ville. C'est très pratique. Puisque c'est plat, on va gagner de l'argent en mise en œuvre pour le terrassement. Et puis, ça permet de boucher la dent creuse. On a dit que Charles de Gaulle se développe derrière la gare et ça va s'accélérer à partir de 47 et l'arrivée d'eau depuis Charpal. Mais donc, on va se retrouver avec un trou qui est ce Préval. Donc, l'idée, c'est de boucher le trou. Et on ne prend pas forcément conscience à l'époque des problématiques d'inondation. Hein, on n'est pas aussi scrupuleux qu'aujourd'hui.
On est sur quelles années ?
Là, on est dans les années 50. Le projet de lotissement, il date de la fin des années 30. Et le lotissement se date dans les années 50. Et il faut bien prendre aussi en conscience que Mende commence à reconnaître de la croissance démographique à ce moment-là. Donc, on manque de place à Mende. Mende, c'est une ville qui a pas dépassé les 6000 habitants avant 1900. Et là, va atteindre 8000 habitants, puis 10000, puis 12000. Donc, il faut aussi de la place. Et puis, les logements du centre-ville, ils sont... C'est insalubre, oui.
Voilà, on est en train de terminer cette émission. Pour terminer cette émission, l'info pour Briand Société, ça serait quoi aujourd'hui ?
Alors, on est juste ici devant un pigeonnier, sans doute ancien, 18e, avec encore les murs en torchis. Alors, les pigeonniers, ils avaient deux fonctions. Alors, on a une fonction, on va dire, agricole, mais ça, je vais laisser Elsa vous l'expliquer. Et puis, une fonction, on va dire, de communication. L'utilisation du pigeon voyageur par les membres de l'élite permet donc de transmettre les messages extrêmement rapidement. Alors, il faut savoir qu'un pigeon est capable de parcourir 800 km dans la journée d'une seule traite. Donc ça va bientôt aussi vite que le TGV. Voilà, donc dans l'idée de briller en société, je pense que voilà, vous pouvez faire le rapport entre le pigeon et le TGV, ça permettra de briller au repas de famille pour Noël. Et donc on a un problème par contre avec le pigeon, c'est que sur l'aller-retour, pour porter le message, il ne sait faire que le retour. Donc il faut d'abord envoyer le pigeon par via de poste, donc dans une cage en charrette, pour ensuite qu'il vous soit renvoyé en volant avec le message de votre destinataire. Donc ça nécessite une logistique assez importante.
C'est ballot, c'est pas très rapide du coup.
Oui, enfin c'est toujours plus rapide puisque vous gagnez quand même le retour.
Oui. Là, on est quoi ? On est sur une maison, une propriété privée ?
Oui, alors là, c'est une grande parcelle en fait qui dépend de la maison qui est au fond. Voilà, donc c'est ces grandes parcelles qu'on a dans le Préval, des grandes maisons bourgeoises avec des grands jardins. Et là, ils ont récupéré clairement des pigeonniers préexistants à l'aménagement.
Donc on a un témoignage du Préval avant le Préval urbain, voilà, donc de ce Préval agricole qui préexistait à cet aménagement, à ce lotissement. Alors Alexandre, vous parlez du pigeon voyageur, moi je vais plutôt vous parler de la colombine, puisque la colombine c'est le nom qu'on donne à la fiente de pigeon. Fiente de pigeon qui a été utilisée également pour fertiliser les cultures. Donc c'est un usage également qu'on a cette ressource naturelle qui est attaché aux pigeonniers.
C'était un peu la poste de l'époque, on a amené ces messages ici ?
Oui, la poste de l'époque et puis le développement durable de l'époque. On réutilise tout, faisant feu de tout bois.
Donc là, on vient de faire cette visite 15 de monde. C'est une visite que vous proposez pendant le temps estival, pendant l'été, sous forme théâtralisée, c'est ça? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus?
Tout à fait, c'est une visite à laquelle vous convie Monsieur Bontois et Mademoiselle Duvaldo, voilà, au travers, en prenant le prétexte d'une découverte immobilière, hein, d'une visite de logement pour Mademoiselle Duvaldo, Monsieur Bontois lui brosse le portrait de ce quartier qui s'est développé dans les années, dans la première moitié du XXe siècle.
Et il a bien du mérite parce qu'elle est pas facile. On a volontairement choisi cette clientèle parisienne, bourgeoise, qui peut venir aussi sur un temps de vacances et donc qui est extrêmement exigeante. Donc c'est une visite bien sûr patrimoniale, mais aussi ludique et assez humoristique et assez récréative qu'on vous propose donc au cours de l'été.
Voilà, et qu'on pourra retrouver l'été prochain.
C'est ça, exactement. Donc, réservation à l'office de tourisme et donc participation avec le Pays d'Art et d'Histoire.
Alors, bien sûr qu'il est plus long, hein, on a volontairement oublié certains aspects et on n'est pas allé partout parce que cette émission ne peut pas durer aussi longtemps et aussi on ne veut pas tout dévoiler non plus.
Non, c'est ça, on garde un peu de suspense.
Voilà. Et pour finir, pour le Pigeonnier, il est situé pas loin du cinéma. On ne vous dit pas où, à vous de le rechercher. Merci Elsa.
Mais merci à toi Ludo.
Merci Alexandre.
Merci Ludovic.
Et je vais retrouver pour la prochaine émission Nelly Caro. Je ne sais pas où elles vont m'emmener, mais je pense qu'on va un peu remonter, qu'on va un peu partir vers le centre-ville de Mende, il me semble. On verra ça.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont. Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.